Bonjour tout le monde. On est autour des livres à la Belle Rousse. Nous avons des splendides roses tout autour de nous. On est à la chapelle en Vercors pour les 20 ans de la médiathèque CDI, tenue par une rousse aussi qui s'appelle Brigitte et par un blond qui s'appelle Cyprien. La particularité de cet endroit, c'est que c'est une médiathèque CDI. Donc les publics se croisent, donc les extraterrestres que sont nos adolescents croisent des vrais gens que sont les adultes. Et il n'y en a pas beaucoup, je crois, en France. Il y en a 4 ou 5, Brigitte m'a dit. Ah, 12. Non, 7. 7, me dit Cyprien. 12, entre 12 et 7, qu'est-ce que j'ai raté? Bon, on est avec Emmanuel Maisonneuve, qui écrit des livres. Le dernier en date s'appelle « Dans les branches ».
Oui.
La trilogie précédente s'appelle « Tom Patate » pour les un petit peu plus jeunes. Et dans tes livres, Emmanuel, on parle beaucoup de nature. On parle beaucoup de choses qui sont toutes petites et de choses qui sont très, très grandes. On parle beaucoup aussi de ce qui se transmet, de ce qu'on est nous-mêmes et de ce qu'on transmet aussi de manière plus ou moins innée. Et puis de beaucoup d'éducation aussi.
Oui.
Avant de commencer à discuter ensemble avec le public qui est là, alors je précise que comme c'est une discussion à plusieurs, tout le monde peut intervenir à n'importe quel moment. Il n'y a pas un temps de conférence et un temps de questions, parce que sinon les échanges sont un petit peu moins naturels. Avant de se rencontrer, je t'ai demandé, Emmanuel, si tu voulais nous faire partager une musique, un son, un texte. Et tu m'as proposé le poème « Liberté » de Paul Éluard.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.
Merci. Emmanuel, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de partager avec nous ce poème? Il est lu par Jean-Louis Barrault, je précise.
Oui, alors en fait, c'est un poème qui parle de liberté et la liberté est un des thèmes centraux de Dans les branches, puisque un des personnages principaux choisit de payer un prix fort pour sa liberté. Et il choisit également comme surnom « aile », donc les ailes d'un oiseau au pluriel. Et il s'avère que dans ce poème, on parle également des ailes des oiseaux. Et voilà, c'était une manière d'exprimer cette idée de liberté, cette idée de s'envoler malgré tout, malgré les difficultés, malgré tout ce qui nous retient au sol, ce qui nous attache. Voilà, donc le thème de la liberté, il fallait l'évoquer au travers d'un texte fort, et je pensais que c'était une bonne idée de proposer cette lecture dans cette émission. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire dans les branches, nous raconter un petit peu le début, et puis centrer aussi sur ce personnage qui est principal, mais qui est quand même secondaire et principal en même temps, une assemblée.
Alors, tout commence avec le personnage de Mo, qui est un garçon de 14 ans, qui vit seul avec sa mère, et très seul, puisque sa mère est malade, elle a très mal au dos, elle est sous morphine, elle est souvent absente, souvent couchée. Et ce jeune, il passe son temps dans sa chambre à jouer aux jeux en ligne multijoueur. Et dans ces jeux de quête, il peut se réaliser, il se sent vraiment quelqu'un. En revanche, dans la réalité, il est très effacé, très introverti, il ne parle pas. Et l'histoire de Dans les branches, c'est la parole de Mo en direct qui raconte son histoire. Il va lui arriver quelque chose très vite, c'est-à-dire qu'il va se perdre dans la forêt suite à une course d'orientation avec son collège. Et là, il va être mis en présence avec une créature terrifiante, étrange. Et il l'identifie au moment de cette rencontre comme un personnage de ses jeux, un troll ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, il va essayer d'en savoir plus sur cette créature. Et ça va le mener à toute une aventure particulière dans la nature, qui n'est pas une aventure fantastique, mais une aventure extraordinaire. Voilà. Alors, je sais pas si, je pense que, en général, j'en dis pas plus.
C'est pas résumé, il faut pas. Voilà. Moi, je voudrais juste te demander une précision sur ce que sont les jeux en ligne, en fait. Les jeux en ligne multijoueurs.
Les jeux en ligne multijoueurs, alors ce sont des jeux qui se jouent souvent sous abonnement et qui sont des jeux de quête. Et on a un avatar, un personnage, on peut en avoir plusieurs avatars. On choisit un personnage et c'est ce personnage qui va à votre place vivre toutes ces aventures. On a en général des objets ou des missions à accomplir et on passe des portails, des sortes d'étapes dans le jeu. Et on est mis en présence dans ce jeu avec d'autres avatars, d'autres joueurs. Voilà, donc voilà ce que j'ai compris de ce type de jeu, parce que je n'y joue pas. Je me suis beaucoup documentée, ouais, puis j'ai regardé, ouais, les jeunes autour de moi y jouer. J'aurais posé des questions, ça m'intriguait. Mais ce qui m'interpellait surtout, c'est le fait que ces jeunes s'absorbaient pendant des heures et des heures de journée dans cet univers virtuel.
Voilà. Oui. Alors, du coup, moi, j'ai envie de demander, il n'y a pas un moment où ça lui sert? C'est parce que c'est vrai que Mo est un personnage qui vit quand même reclus dans son corps, parce que c'est un personnage qui est un petit peu gros, on va le dire.
Oui.
Donc il est replié derrière son corps, replié dans sa chambre, derrière son ordinateur. Il vit des aventures virtuelles, mais est-ce qu'à un moment donné, en fait, ces aventures virtuelles vont pas l'aider à vivre sa vraie vie dans la vraie nature?
Alors, au départ, je pensais que mon propos, c'était effectivement de dénoncer ce type d'aventure virtuelle. J'étais partie dans cette idée très classique de maman, oui, d'ado, etc. Et mon personnage n'a pas voulu avoir ce discours-là. Parce que vous savez, quand on écrit, on finit par ne plus être complètement maître à bord. Donc Mo, ce jeune homme, eh bien, il a bien mis l'accent sur le fait que ses aventures virtuelles l'aident dans cette aventure réelle. Plusieurs fois, il le dit, il explique que son expérience des jeux lui a permis de développer des qualités de persévérance, oui, de curiosité, puisque dans les jeux de quête, on cherche un petit peu partout. Et ça va l'aider effectivement dans son aventure extraordinaire dans la nature. Voilà.
L'observation, la déduction, la réflexion, tout ce qu'il a développé en fait derrière son ordinateur va l'aider en fait dans son dans sa véritable aventure pour partir à la recherche de ce personnage en fait
particulier,
un peu particulier. Oui. Voilà. J'avais envie de revenir dans les branches en fait. Il y a des personnages qui transmettent quelque chose, qui apprennent à mots à grandir.
Bien sûr, bien entendu. Alors, son père est absent, on n'en parle pas. Il m'a semblé pas nécessaire d'en parler. Il a un faux père qui essaye quelque part de lui transmettre certaines valeurs, mais d'une façon coercitive, c'est-à-dire qu'il sanctionne, il ne faut pas qu'il joue trop longtemps à l'ordinateur, etc. Donc, ça se passe très mal. Et puis, à la suite de ça, il va rencontrer un homme qui est un petit peu en marge et qui habite dans la montagne et qui a décidé de créer un élevage de vaches et pour la production de fromage. Et cet homme, il est si à côté, si illuminé et en même temps si lucide, qu'il va apporter beaucoup à Mo. Ça va être l'adulte avec lequel Mo va pouvoir avoir un dialogue d'égal à égal. Il va cesser d'être un jeune homme retranché, comme tu dis, retranché, pour vivre des choses déjà avec cet homme et puis échanger avec cet homme des choses importantes. Voilà. Donc cet homme, ça, je l'appelle le grand type, il s'appelle Gabi et il va être un petit peu son ange gardien, voilà, son ange, son guide. Voilà. Donc effectivement, il y a toute une transmission qui se fait et pas seulement au niveau de la transmission dans le couple adulte-jeune, mais aussi entre jeunes, quoi. Entre différents personnages qui ont à peu près le même âge et qui vont échanger, qui vont apprendre des choses l'un de l'autre.
Donc ce personnage-là, le grand type, habite, est très proche de la nature. C'est quelque chose d'important dans tes romans. Dans la première trilogie que tu as écrite, qui s'adresse plus aux plus jeunes lecteurs, qui s'appelle Tom Patate, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu de quoi, de l'histoire de Tom Patate?
Alors, Tom Patate, c'est pour les 9-12 ans environ, mais aussi ça peut être lu à des plus jeunes, ça fonctionne bien en lecture oralisée. C'est un petit garçon qui doit faire à peu près 10 cm, qui n'est pas plus haut qu'une grosse patate, qui se réveille justement tout nu et sans souvenir dans cette patate du potager d'un jardin inconnu. Et la trilogie, c'est son histoire déjà pour survivre avec rien, en étant tout petit dans un jardin, dans la nature, et puis aussi l'histoire de sa quête des origines. Donc il va essayer de savoir d'où il vient, lui qui n'est ni un animal, ni un grand Jean comme nous. Donc là, effectivement, on a le rapport des petits et des grands. Et lui, il est différent, il est vraiment petit, et il va chercher pourquoi il a été abandonné, en quelque sorte, dans cette patate. Et il va découvrir un monde merveilleux, parce que Tom Patate, c'est de l'ordre du naturalisme et du merveilleux. Et ce monde merveilleux, c'est le monde des fades. En Auvergne, on appelle comme ça les fées qui se cachent dans les lieux les plus sauvages de la nature. Donc des aventures, de l'humour, une quête initiatique, une quête des origines, l'accomplissement de soi aussi, les animaux. Et c'est vrai que Tom Patate aussi a un fort lien avec la nature, comme dans les branches. Et la nature, on peut dire que c'est un petit peu le troisième personnage ou le deuxième personnage de mes romans. Elle s'impose naturellement en fait. C'est dans ce cadre-là que se passent mes aventures Et c'est, je prends pour modèle le lieu où je vis, c'est-à-dire la montagne du Forez, entre la Loire et le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Voilà. C'est important pour moi, déjà au niveau de l'esthétique, c'est-à-dire que je ne pouvais pas concevoir de vivre dans un lieu qui soit moche. Je trouve que actuellement, on a tellement d'histoires derrière nous, mmh. et de gens qui ont fait des choses magnifiques au niveau architectural, au niveau cadre de vie, etc., dans le traditionnel ou pas. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de faire systématiquement du beau au niveau de, des lieux de vie, des zones commerciales, etc. Donc, j'habitais pas loin du couloir de la chimie à Lyon. Et j'ai émigré rapidement, dès que j'ai pu, vers l'Auvergne, parce que c'est aussi le pays de mes racines, et parce que j'avais en premier besoin d'un lieu beau, qui ait du sens aussi. Voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça que la nature joue un rôle important dans mes livres. Cela dit, le prochain, c'est deux petites filles qui vivent en ville. Donc, voilà.
Elles peuvent se recréer un univers comme on est ici. Alors là, on est tous ensemble, on voit où on est. Mais voilà, pour les gens qui vont nous écouter à la radio, voilà, on est dans une salle polyvalente. Il y a du béton, du bois, la forêt alentour nous a gentiment prêté, offert ses branches et ses feuillages.
Oui, il y a un très beau décor.
Voilà, un très très beau décor, un mélange de canapés. On est sur des brouettes. Cyprien nous disait, des brouettes de l'armée suisse avec des couvertures de l'armée suisse aussi,
oui,
je pense.
Qui ont l'air bien chaudes.
À la
chaude,
fois
hein.
Bien chaudes et bien rêches.
Une couleur très brute.
Voilà. Mais... Et voilà, l'environnement est très important. Mm. Une dernière question sur ton rapport. Alors toujours dans la nature, mais ton rapport aux plantes. Est-ce que tu connais les plantes dans Tom Patate? En fait, c'est très présent.
Oui, oui.
Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu t'es beaucoup documentée? Est-ce que...
Alors, j'ai toujours eu un intérêt pour les plantes et leurs vertus, mais je ne suis pas une grande connaisseuse. J'ai rencontré des gens qui étaient bien plus connaisseurs que moi dans ce domaine-là. Par contre, je connais certaines plantes, comme le plantain, des plantes de base toutes simples qu'on trouve sur les chemins. Par exemple, vous vous faites piquer par une ortie, vous allez trouver en général pas loin du plantain. Enfin, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des longues feuilles lancéolées comme ça, avec des nervures verticales. Eh bien, il suffit de prendre cette feuille, de la gnaquer un peu avec les dents et de la frotter sur votre piqûre d'ortie. Et le plantain, ça calme toutes les piqûres et toutes les affections de ce genre. Donc, il y a quelques plantes que je connais bien, sinon je me suis beaucoup documentée aussi. Voilà. Et par ce livre, c'est très étrange, c'est que par ce livre, j'ai rencontré des gens qui s'y connaissaient bien mieux que moi et qui continuent à m'initier voilà, dans ce domaine-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, en fait.
Voilà. D'accord. Bon, merci Emmanuel.
Merci.
On peut tous retrouver Emmanuel Maisonneuve jusqu'à 17h ce soir dehors, avec ses livres, avec la librairie Le Mot qui Roule, avec Brigitte, avec Marie, avec toute l'équipe d'Autour des Livres et de la Belle Rousse. Merci beaucoup. Emmanuel, tu as emmené avec toi un livre chez Gallimard qui est très très beau, qui t'a vraiment accompagné en fait pendant tout le temps d'écriture dans les branches. Et voilà, si on va discuter avec Emmanuel, ça peut être intéressant de regarder ce livre aussi.
Oui, je le mettrai sur le stand parce qu'il a joué un rôle important pour l'expliquer aux personnes qui me demanderont.
Merci Emmanuel.
Merci.
Merci Maxime, merci Cyprien, merci Rachel, merci tout le monde, merci le public.
Merci à vous.